la distance avec le regard clinique, justement, c'est cette idée que, chez Foucault, on a l'idée que la clinique, c'est justement la spatialisation des pathologies, des symptômes, dans un corps qui peut s'exposer au regard et au dévoilement. Avec Armstrong, on a l'idée qu'on sort de ce regard clinique pour avoir un regard dans la continuité du temps, où l'individu passe par des étapes, le corps passe par une série de succession d'étapes dans le temps. Alors, ça implique un certain nombre de transformations des pratiques de santé, dont on a pas mal parlé dans ce séminaire. L'idée d'un diagnostic prospectif qui se substitue au diagnostic classique fondé sur des signes observables et des symptômes exprimés. Un diagnostic prospectif qui, notamment avec l'aide de la médecine prédictive, de l'épidémiologie, des facteurs de risque, aide à anticiper sur des problèmes médicaux. Donc ça va évidemment, cette transformation va de pair avec le développement de l'épidémiologie des facteurs de risque, avec une conception de la prévention individualisée où la consultation peut se dérouler sur la question de la gestion des facteurs de risque. Le patient qui vient en consultation peut être amené à être mis en position de gérer, de manager ces facteurs de risque de telle sorte à ce qu'il n'entrave pas sa santé. Les corps sont réintégrés dans une chronologie, c'est-à-dire que la médecine se déroule, comme le disait Armstrong, sur l'axe temporel, un axe qui n'était pas présent dans la conception antérieure de la médecine. Et puis, bien sûr, une importance des comportements de surveillance de soi dans les maladies chroniques. On connaît l'importance des notions d'observance, des médicaments, notamment dans la chronicité des maladies. La médecine consiste aussi à se surveiller soi-même, à apprendre à se surveiller soi-même pour ne pas aggraver les maladies ou pour ne pas rechuter. Voilà. Et le récit global qui accompagne cette transition, c'est celui de la transition épidémiologique où l'on passe du paradigme des maladies infectieuses vers le paradigme des maladies chroniques. Être malade, ce n'est plus une question d'avoir ou non une maladie. Être malade, c'est une question de degré. On est tous plus ou moins malade en fonction de l'importance de ces facteurs de risque. Et donc, on est sur une gradation, une continuité. Alors, au niveau des enjeux, il me semble qu'on peut en distinguer quatre. Le premier enjeu, il porte sur la question de la définition du normal et du pathologique, la définition des maladies. La médecine de surveillance, elle a pour effet de reconfigurer les catégories nosologiques. Elle réinterroge les concepts de santé et de maladie, et notamment en permettant ou en étant en phase avec cette notion de médecine personnalisée où l'individu et l'individualité prend une place plus importante dans la médecine. Et peut-être qu'on n'est plus dans l'idée que les pathologies se définissent au niveau général des populations, mais bien plus au niveau de sous-groupes, de sous-catégories, voire au niveau des individus. Donc il y a cette tendance-là à reconfigurer les catégories de médecine, de santé et de maladie. Pardon. Deuxième point, ça présuppose des individus qui sont soucieux de leur santé, agissant sur la base de la connaissance des risques. Alors, on a vu avec Patrice Pinel, dans la seconde séance de ce séminaire, cette notion de homo medicus, qui est également reprise par Peretti Vatel et Moati dans leur principe de prévention. Cet individu dont on avait dit au cours de la discussion que c'était évidemment une fiction et probablement un obstacle finalement à la réalisation de la santé publique, puisque ces individus qui agissent rationnellement en fonction de leurs facteurs de risque et des décisions qu'ils doivent prendre pour les réduire ne correspondent pas ou se s'appliquent mal à la réalité de ce que sont les individus qui sont en contact avec la médecine. Troisièmement, cette médecine de surveillance, donc en plus de reconfigurer les catégories du normal et du pathologique et de présupposer des individus rationnels qui gèrent leurs facteurs de risque, elle s'accompagne d'une certaine organisation du système de soins avec des protocoles construits sur la connaissance des différents groupes de population. Donc c'est cette idée que la médecine se transforme aussi se protocolise, que le système de soins lui-même n'est pas en reste par rapport à cette mutation. Et enfin, la médecine de surveillance, et je crois que c'est un thème, on est dans un mot-clé hein, de notre période contemporaine, surveillance, et je crois qu'il a résonné dans ce séminaire aussi parce qu'il renvoie à des formes de contrôle et de gouvernement qui questionnent à la fois les libertés individuelles, hein, le droit à la vie privée, et aussi les formes collectives dans lesquelles nous vivons. La séance sur les big data et le raisonnement algorithmique a bien permis d'insister sur cette dimension de transformation des formes de gouvernement et des rapports de pouvoir qui sont associés avec le développement de cette surveillance, y compris en santé. Alors, ce que je vais faire, c'est que ces quatre enjeux, on peut les rapporter à quatre pôles qui me semblent organiser qui me semblent judicieux de considérer comme organisant une part de la réflexion sur l'éthique de la santé publique. Donc, d'abord, le concept de santé, avec la reconfiguration des catégories du normal et du pathologique, la notion de santé. Deuxièmement, la question des libertés. Sommes-nous libres d'agir sommes-nous libres d'agir comme nous le voulons face aux prescriptions et aux normes de la santé publique? Des savoirs, la façon dont les savoirs circulent au sein du système de santé, la connaissance épidémiologique, l'organisation des systèmes de santé, et enfin la question des pouvoirs. Donc je vais revenir sur ces quatre pôles après être passé par le cas du dépistage du cancer colorectal. Donc je vais revenir à cette cartographie en fin d'exposé. Alors, bon, dépistage du cancer colorectal, on est typiquement dans un exemple de ce en quoi peut consister cette médecine de surveillance. C'est un dépistage qui est organisé en France depuis 2009 et qui s'adresse à toute la population des personnes âgées de 50 à 74 ans. Ça représente à peu près 18 millions de personnes qui sont donc la population cible de ce dépistage. Et donc, il y a un certain nombre de campagnes qui sont organisées. Vous les avez peut-être déjà repérées, notamment au mois de mars avec le mars bleu qui est l'année de la campagne, le mois de la campagne du cancer colorectal, de dépistage. Alors, en France, le dépistage passe par la réalisation d'un test hémoculte. C'est un test qui recherche le sang dans les selles, comme c'est indiqué là. Donc, il consiste à appliquer trois morceaux de sel sur cette feuille cartonnée et ensuite de refermer, de l'envoyer par la poste. C'est lu ensuite par un laboratoire. Avec un œil humain qui détecte le passage au bleu du test. Et le test peut s'avérer positif ou négatif. S'il s'avère positif, vous êtes invité à suivre une coloscopie pour confirmer un diagnostic, pour enlever des polypes qui pourraient apparaître et se transformer en cancer. Alors, cette campagne de dépistage organisée, c'est une décision qui est forte. J'ai dit que c'était 18 millions de personnes. Ça représente un coût très important. Et l'idée de ce dépistage, elle remonte aux prémices de la lutte contre le fléau du cancer. C'est l'idée que le cancer est soignable quand il est pris à temps. Donc à l'idée que le cancer est une maladie sournoise qui se développe silencieusement et que le seul combat qu'on puisse réellement sur lequel on puisse vraiment amener le terrain du cancer pour le gagner, c'est le combat de la précocité. Donc un diagnostic précoce permet un meilleur traitement et c'est vraiment le principe sur lequel repose ce dépistage du cancer colorectal. Alors c'est une politique de santé globale. Au sens où aujourd'hui, il y a 18 pays qui ont organisé un dépistage organisé de toute la population de la tranche 50, 74, 75 ans. Et il y a une expertise mondiale qui circule, c'est-à-dire qu'on a des normes, des méthodologies, y compris même des campagnes, qui circulent d'un pays à l'autre. Et il y a quelque chose de, c'est un exemple de santé globale, de santé mondiale, où un certain nombre de savoirs s'exportent d'un pays à l'autre et sont appliqués dans des contextes assez différents. Alors, regardez par exemple la similarité en fait entre des matériaux de campagne assez différents entre les États-Unis et la France. Donc à droite, on a un prospectus dans lequel des personnes de toutes langues et de toutes origines expliquent que le test doit se faire tous les deux ans. Et puis à gauche, dans le cadre de la campagne organisée par le Center for Disease Control aux États-Unis, on a quelque chose qui est des objections aux principales raisons pour lesquelles les gens ne se font pas dépister. Donc, j'ai pas de symptômes, dit la dame en haut à gauche. En réalité, ben voilà, ça n'empêche pas que vous pouvez quand même avoir déjà un cancer en vous, même si vous n'avez pas de symptômes. Je n'ai pas de risque dans ma famille, donc effectivement, il y a des familles plus à risque que d'autres, mais ce dépistage organisé s'adresse justement à toutes les personnes qui ne sont pas à risque particulier. Donc, c'est quelque chose de particulier. Une personne qui dit qu'elle n'a que 53 ans et que c'est très jeune pour avoir un cancer, donc là aussi, il y a une objection. Les faits épidémiologiques montrent qu'effectivement, c'est à partir de 50 ans que le risque augmente fortement. Et puis, une dame qui a des doutes sur le test. Hein. Oui, mais ce test, il n'est peut-être pas tout à fait fiable, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et là, la réponse que donne le document de campagne américain, c'est... oui, en effet, mais il existe plusieurs sortes de tests. Donc, pour revenir à la France, on est dans cette distribution d'un test Hémocul qui est effectivement particulièrement controversé parce qu'il fait beaucoup de faux positifs et de faux négatifs. Et donc, il a une sensibilité, une fiabilité extrêmement faible. Néanmoins, il reste, jusqu'à aujourd'hui, recommandé sur le plan international dans le cadre d'un dépistage massif de la population. Et aujourd'hui, on est dans un moment de transition où on passe à un test immunologique. Mais je ne vais pas entrer dans ce détail-là. Alors, ces campagnes de dépistage, ça pose une série d'enjeux. Je vais distinguer des enjeux classiques et puis des enjeux peut-être davantage liés à la problématique qui nous intéresse dans ce séminaire. Les enjeux classiques qui rejoignent, les grands chapitres des traités d'éthique de la santé publique. La première question, c'est celle de la balance entre les risques et les bénéfices, ou les avantages et les inconvénients. Et là, c'est évidemment un critère qui n'est pas spécifique à l'éthique, quelque part, qui est l'objet même de la réflexion en santé publique, qui est de savoir si ce dépistage, en définitive, tel qu'il se passe dans la réalité, dans les conditions réelles, apporte quelque chose aux patients ou pas. Et vous savez que les dépistages organisés font l'objet de controverses, d'incertitudes. Et parmi tous les dépistages organisés en France, notamment mammographie pour le cancer du sein, et les dépistages tels que le dépistage du cancer du col et autres, c'est le dépistage du cancer colorectal, c'est celui qui fait le moins polémique quant à la balance globale des risques et des bénéfices, c'est-à-dire que les personnes qui sont dépistés en tirent en moyenne un bénéfice. Je n'entre pas dans le détail. Et ça, c'est donc ce critère que ça doit apporter plus d'avantages que d'inconvénients. Ça repose aussi sur le fait qu'on n'entreprend un dépistage organisé que lorsqu'il y a quelque chose à proposer en face. C'est-à-dire qu'il faut que, quand il y a un dépistage, les personnes aient une stratégie de traitement, notamment, pour s'en sortir. Et c'est ce qui manque, par exemple, sur le dépistage du cancer du poumon, où il n'y a pas de stratégie thérapeutique qui permet, derrière, de faire quelque chose de l'information qu'on aurait en dépistant les gens précocement. En revanche, pour le cancer colorectal, effectivement, les opérations, les traitements sont à l'œuvre. Et là, donc, ces critères qui justifient l'entreprise d'un dépistage organisé ont été complétés récemment par d'autres par des auteurs qui ont insisté sur un critère qui manquait dans la première version des critères de Wilson et Junger, qui est que c'est aux personnes elles-mêmes de juger avec leurs propres valeurs si le jeu en vaut la chandelle, autrement dit, si pour elles, ça correspond à un avantage. Et là, on est sur une tension assez forte dans les campagnes de dépistage organisées, puisque à la fois, il y a une recommandation très forte, c'est une norme de la santé publique de passer par ce dépistage, et en même temps, on insiste sur le fait que c'est aux personnes elles-mêmes de juger le rapport entre risque et bénéfice. Et évidemment, la décision de santé publique, elle est faite à l'échelle populationnelle, tandis que la décision de participer ou non, elle se fait à l'échelle individuelle, et il y a un gap qui est bien connu entre l'échelle populationnelle et l'échelle individuelle. Alors, deuxième enjeu, c'est celui de l'autonomie des personnes. Est-ce que le dépistage est un devoir ? Bon, je ne vais pas rentrer directement dans cette question-là, mais a-t-on le devoir de se soigner ? Ça ressemble à un sujet du bac de philo, ça pourrait en être un d'ailleurs. A-t-on des devoirs envers soi-même ? Sommes-nous responsables de notre propre santé ? Toutes ces questions-là, elles se posent directement avec ces campagnes de dépistage. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que dans le cas du dépistage organisé du cancer colorectal, on a aussi une présentation du dépistage comme un droit. On a un accès au droit, c'est un accès à un diagnostic, c'est comme un accès aux soins qui rentre dans le registre du droit à la santé. Mais comme c'est un droit à la santé, on a un devoir de l'exercer. Donc on est un peu dans ces registres-là. Alors évidemment, c'est un dépistage organisé, DO, pas un dépistage obligatoire, c'est-à-dire que les personnes peuvent tout à fait, et sans avoir à justifier davantage, ne pas se faire dépister. Simplement, ce lieu de l'expression d'autonomie n'est pas nécessairement bien identifié. Et enfin, troisième question, celle de la justice. Et vous voyez qu'on retrouve premièrement non-malfaisance, bienfaisance. Deuxièmement, autonomie des personnes. Troisièmement, justice. On retrouve les trois principes classiques de l'éthique clinique, tels qu'on la trouve chez Beauchamp et chez Childress. Et un dépistage organisé est-il socialement juste ? Et là, justement, à l'échelle internationale, dans tous les pays où les dépistages ont été organisés, on observe un renforcement des inégalités de santé. Autrement dit, le dépistage de masse profite d'abord aux plus favorisés, étant donc à renforcer les inégalités. Et du coup, de nombreux projets visent à s'adresser aux exclus du dépistage et à ramener ces brebis égarées dans le droit chemin, notamment parce que les exclus ne sont pas n'importe qui, mais sont aussi ceux qui sont par ailleurs les plus désavantagés dans la société, enfin en tout cas le plus souvent. Alors, d'où le projet et qui fait partie du contexte duquel je vous parle ici, un projet qui a lieu en ce moment, un projet exploratoire pilote, qui vise à explorer la figure du navigateur de patients. Donc c'est un médiateur qui vient inciter les personnes, notamment dans les quartiers défavorisés, à participer au dépistage du cancer colorectal. Donc c'est une politique qui vient en complément de l'Organisation nationale du dépistage pour corriger ces effets renforceurs d'inégalité. Voilà. Donc là aussi, on est sur une politique de santé qui a une dimension globale, mondiale. Il y a un transfert qui se fait entre des méthodes qui sont produites, là en l'occurrence aux États-Unis, et qui sont exportées, transportées dans d'autres contextes, et dont on se demande si d'ailleurs elles sont réellement exportables. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut prendre une figure de navigateur de patients aux États-Unis et l'emporter ici ? Et qu'est-ce que ça change ? Quelles sont les transformations qui s'opèrent ? Et ça reste assez flou. Mais comme on est dans une période, je dirais, de mondialisation des preuves et de circulation transnationale des normes de santé publique, on a aussi une circulation des recettes, des choses qui marchent et qui ne marchent pas. Alors, je passe maintenant à la série d'autres enjeux du dépistage du cancer. Alors, le premier enjeu comme forme de surveillance, c'est que le dépistage du cancer colorectal, ça suppose tout un tas de technologies de gestion de la population qui doivent être en place et adéquates. Et là, je reprends la notion d'hétérosurveillance qui figurait dans le titre et je l'aurais espéré dans l'exposé de Patrick Perrettier-Vatel, puisqu'on est bien sur un dispositif qui vise à pister les personnes qui sont cibles. D'accord ? On est dans un registre d'ailleurs militaire hein, de pistage, de ciblage, etc. Alors évidemment, on n'est pas dans un... Enfin, on n'est pas dans une action militaire, mais on est dans une action qui vise à toucher toutes les personnes qui sont concernées par ce dépistage. Alors, il faut bien se rendre compte que des dépistages organisés ne peuvent apparaître que dans des pays où il y a un système de santé, où il y a un recensement, où il y a un système d'assurance maladie suffisamment centralisé, et que les conditions matérielles dans lesquelles, je dirais, ce genre de politique de santé publique qui implique de la surveillance, que des conditions matérielles doivent être remplies. Et là, je fais juste une référence à l'exposé de Suzanne Bauer dans la première séance, qui avait justement insisté, en parlant du cas du Danemark, sur toute le côté infrastructure des bases de données. Et que sans cette infrastructure-là, ces politiques-là ne pourraient pas être mises en place. Alors, ça suppose aussi de faire un usage secondaire des données, notamment des données d'assurance maladie, c'est-à-dire que le fichier qui est utilisé pour faire les lettres d'envoi d'invitation au dépistage, ce fichier vient des données, vient de l'assurance maladie. Et donc ça suppose d'avoir une réutilisation, un détournement de finalité de ces données qui ne sont utilisées normalement qu'à des fins de gestion. Donc ça a supposé aussi des autorisations de la part de la CNIL, quelque part des aménagements avec le cadre légal qui dit que les données de santé ne peuvent être enregistrées que dans une finalité bien particulière. Et en l'occurrence, la gestion des remboursements, c'est ça la finalité de la base de données d'assurance maladie. Lorsqu'on l'utilise pour faire du dépistage ou de la prévention directement auprès des personnes, ça suppose un changement de finalité. Donc il y a toute une logistique des lettres d'invitation. Et enfin, aussi, ça suppose des registres du cancer qui sont notoirement rares et absents sur le territoire, enfin pas absents, mais partiels sur le territoire français, pour étayer l'intérêt et pour montrer effectivement l'effectivité de ces campagnes de dépistage. Alors, ça suppose cette technologie de gestion de la population et ça suppose aussi, à l'autre bout de la chaîne, des comportements effectifs des individus, et notamment des comportements d'autosurveillance. Alors, c'est tout un mystère de savoir exactement ce que c'est que le comportement de dépistage, c'est-à-dire se prêter à la réalisation d'un test de cancer. Alors là, j'ai repris ici la notion de culture de la prévention. Il y a eu un rapport récent de l'Académie de médecine sur la prévention. Vous savez que c'est aussi le mot-clé du plan de santé publique qui a été annoncé hier par la ministre de la Santé, le mot prévention. Donc tout un tas d'experts de l'Académie de médecine se sont réunis. Et il y a très fortement l'idée qu'il faut créer dans la population une culture de la prévention qui se définit comme une culture de gestion des risques. Et là, on retombe vraiment sur l'homo medicus. Il faut apprendre à tout âge, à chaque âge de la vie, à chaque étape, à prendre soin de soi et à passer par les politiques de dépistage, de tests qui nous sont proposées. Alors, troisième enjeu qui est lié à la médecine de surveillance, c'est que ces campagnes de dépistage, elles déploient la rationalité biomédicale vis-à-vis de la santé, c'est-à-dire qu'elles entérinent la rupture entre maladie biomédicale et maladie vécue. Là, on a quelque chose qui est important. On a vu tout à l'heure sur la campagne, l'affiche, que les personnes disent « mais j'ai pas de symptômes, donc pourquoi est-ce que j'irai au devant d'une maladie puisque je me sens très bien ?» La culture de prévention qui est engagée dans le rapport au dépistage, c'est une culture qui suppose que l'on fasse le découplage entre les propres sensations de son corps, les effets ressentis, l'expérience de la maladie et la réalité biomédicale du risque de maladie ou de la maladie silencieuse. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent dans les travaux de sociologie du dépistage, médicale, notamment dans cette synthèse là, très intéressante de sociologie critique, il y a cette idée forte que le dépistage est un vecteur aussi de construction, plus ou moins réussie, de cette rupture entre le vécu et le risque objectivable biomédicalement. Ça, c'est une image que j'ai trouvée effectivement dans les campagnes de dépistage américaines. Alors, vous pourrez peut-être m'aider à l'interpréter, parce que je ne suis pas sûr de mon coup, mais... Alors, êtes-vous l'image de la santé? Je crois qu'il y a, derrière cette expression, il y a l'idée que quand on se sent très bien, il n'y a aucune raison d'aller faire des tests de dépistage. Et il y a l'idée dans cette campagne de contrer l'idée que quand on se sent très bien, on ne doit pas avoir recours à la médecine. Au contraire, montrer être en bonne santé, c'est aussi prendre soin de soi, c'est-à-dire aussi réaliser tous les gestes de prévention qui doivent être construits. Donc, être, vous voyez, cette personne, c'est la figure de proue de ces campagnes, c'est une personne très visible qui fait elle-même le test, qui est en très bonne santé, manifestement, et qui montre que être en bonne santé, en réalité, c'est se faire dépister. Voilà. Donc, cette rupture entre peut-être l'image et la réalité. Et enfin, le dépistage du cancer colorectal, il montre que la médecine se déploie sur cette ligne temporelle dont parlait David Armstrong. Là encore, on a des... Donc, vous voyez à droite le slogan de la campagne française, c'est « le plus souvent ». Donc, c'est assez intéressant, il y a une modalité probabiliste qui est associée à l'efficacité du dépistage. Mais ce n'est pas en gras, le plus souvent, on ne le voit pas en fait. Dépister à temps, un cancer colorectal n'est pas méchant, c'est-à-dire qu'il y a une lutte contre le temps et cette notion de l'idée que le cancer peut être soigné ou peut être opéré, peut être pris en charge par la médecine dès lors qu'il est pris à temps, qu'il est détecté avant que les symptômes se déclarent, cette idée elle est aussi travaillée de façon très intéressante par Ilana Loewy dans ce livre sur les frappes préventives, et notamment le cancer du sein et la chirurgie prophylactique. Donc, cet ouvrage a eu un prix de la Société des anthropologues américaines. C'est un ouvrage très intéressant qui, effectivement, interroge la conception du temps qui est sous-jacente, la vision du temps qui est sous-jacente à la théorie du cancer. Et de ce point de vue-là, un autre, je crois, ouvrage qui peut nous intéresser dans ce questionnement, c'est celui de Welch, donc sur une autre perspective, non pas anthropologique ou historique, mais bien épidémiologique. Welch va aller interroger justement l'opportunité du dépistage éventuellement l'inexactitude ou l'inutilité de ce schéma temporel. Alors ça, c'est un schéma qui est dans le bouquin et qui concerne non pas le cancer colorectal, mais le cancer de la prostate, où Welch nous montre qu'un certain nombre de maladies qui peuvent être détectées par le programme de dépistage sont en réalité des pseudo-maladies, c'est-à-dire que ce sont des maladies dont les personnes ne vont pas mourir, c'est-à-dire qu'ils peuvent être quand même biomédicalement définis comme des pathologies, mais qui sont suffisamment lentes pour que, en fait, elles n'aient pas d'effet sur la vie ou sur la biographie des personnes. Le dépistage, on le voit sur ce schéma, si ce schéma correspond à la réalité, n'entraîne pas de survie ou de réduction de la mortalité ou de vie plus longue, mais simplement, il entraîne une vie avec une maladie. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, si le schéma correspond à celui-là, il y a dans les dépistages organisés un risque de surdiagnostic qui peut ensuite entraîner tout un tas de problèmes qui font justement l'objet de ces discussions. Voilà pour le plan du cancer et du dépistage du cancer. J'en viens à mon troisième point. Et le deuxième, c'était le dépistage, voilà, c'était l'exposé de ce cas. Et le troisième point, alors là, j'espère que je ne vais pas vous perdre complètement. Je reprends ma cartographie et j'essaie de vous présenter un schéma qui, moi, m'a aidé, en tout cas, à organiser du matériau. Et je le partage avec vous pour discussion, pour critique, peut-être pour souligner des manques. Et c'est un schéma qui consiste en réalité à présenter un certain nombre de tensions qui existent dans le champ de la santé publique. Et ces tensions, elles ne sont pas, je dirais, contingentes, elles sont robustes et nécessaires. Alors, Kant appelait, chez Emmanuel Kant, le philosophe, il y a un schéma qui ressemble à celui que je vais présenter, mais qui n'est évidemment pas du tout avec le même contenu, c'est le développement des quatre antinomies. Chez Kant, il y a l'idée que la raison pure se perd sur un certain nombre de questions entre des conjectures qui sont contraires mais qui sont justes toutes les deux. Ce que je voudrais montrer ici, en reprenant un schéma qui est de la même forme, c'est de montrer qu'il y a en santé publique un certain nombre de tensions qui sont des tensions qui sont authentiques. C'est-à-dire, ce ne sont pas des choses qui temporairement s'opposent, mais qui sont des oppositions authentiques et réelles. Alors, la première tension que je vais exposer, c'est une tension qui touche aux finalités de la santé publique et qui vient du fait qu'il y a deux concepts de santé qui, en réalité, sont en tension l'un avec l'autre. Le concept de santé positive, c'est la fameuse définition de l'OMS relève de cette notion-là. Hein. La santé, c'est plus que l'absence de maladie. La santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social, et pas simplement l'absence de maladie. Il y a des interprétations contemporaines qui définissent la santé en termes de capacité d'agir, de pouvoir d'agir, de capacité, etc. Donc on est sur un concept de santé positive. Et puis on est en face sur un concept de santé négative qui, justement, se définit par une absence, par l'absence de maladie ou le contrôle ou la réduction des risques. Et il me semble que dans le champ de la santé publique, il y a justement une tension entre ces deux concepts. Alors évidemment, il ne faut pas dire qu'il y a une opposition radicale entre la santé positive et la santé négative. C'est-à-dire que avoir une absence de maladie, ça aide à développer son pouvoir d'agir, à trouver son épanouissement en tant qu'humain, etc. Et puis, bien sûr, à l'inverse, être en capacité d'agir sur le monde, d'agir sur sa propre vie, d'agir avec les autres, c'est favorable, ça permet d'éviter aussi des maladies, puisque ça réduit le stress, etc. Donc, évidemment, il y a une complémentarité entre les deux concepts de santé, mais simplement, du point de vue de la santé publique, ces deux aspects entrent en tension permanente. Quand on hésite entre la prévention et la promotion de la santé, je crois que justement ça repose sur ces deux concepts de santé différents. Alors j'en viens à ma deuxième tension. Si l'on neutralise la première, vient entre santé comme un bien premier et un bien en soi et d'autres valeurs, d'autres biens qui peuvent venir en contradiction avec la santé. Donc, et là, ça questionne la légitimité de la santé publique à intervenir au nom de la santé. Alors, ça, c'est quand on lit la littérature en éthique de la santé publique, elle est essentiellement consacrée à cette tension entre la liberté des personnes de choisir leurs biens, qui ne sont pas forcément celui de la santé, ou qui ne sont pas forcément cohérents avec celui de la santé, et la santé comme un bien qui, quelque part, surpasse tous les autres. Et notamment dans un rapport du Nuffield Council of Bioethics, qui a fait un point assez synthétique sur l'état de la réflexion sur l'éthique de la santé publique, il y a toute cette articulation entre le droit des personnes à ne pas entrer dans un comportement de santé et la norme de la santé. Le texte que je viens de citer a notamment développé tout un schéma qui consiste à hiérarchiser les interventions de santé publique en fonction de l'emprise qu'elles ont sur les individus. Donc la façon de Là où la santé prime sur la liberté, c'est notamment dans les cas d'épidémies qui menacent la sécurité globale. Il peut y avoir atteinte à la liberté de circulation des personnes, injonction thérapeutique, quarantaine. On a vu ça récemment dans le cas du virus Ebola, où les personnes sont privées de toute liberté, de toute possibilité de vivre leur vie comme elle entend, parce qu'il y a une menace de santé grave et qui menace aussi la santé des autres, évidemment, c'est un critère important. Et puis, donc, ça, c'est là où l'atteinte à la liberté est la plus importante. Puis ensuite, il y a une gradation. Lorsque l'État prend des mesures pour retirer du marché un produit ou une substance, c'est une atteinte à la liberté, alors à la fois des entreprises de commercialiser des produits, mais aussi des personnes d'avoir accès à ces produits, etc. etc. Et il y a la notion d'influence qui est une... Alors, quand on encourage les gens à se conformer à des préceptes de prévention, est-ce qu'on atteint leur liberté? Alors justement, quand on réduit quand on se dégrade sur ce calque, cette hiérarchie des interventions, on en vient à des questions qui sont assez difficiles, à savoir, et notamment la médecine de surveillance, je crois qu'elle rentre dans ce champ-là, on a du mal à déterminer jusqu'à quel point elle permet un équilibre adéquat entre liberté individuelle, liberté de ne pas, de préférer d'autres choses, et la valeur de santé elle-même. Alors, je passe à une troisième tension qui, elle, touche aux modèles qui sont employés pour développer ou déployer cette santé publique. Une tension qui est, qu'on peut résumer en deux concepts. Le concept de contrôle et de maîtrise, hein, sur la case du haut, et puis le concept de complexité sur la case du bas. Et je crois qu'on retrouve dans le champ de la santé publique une controverse permanente entre ces deux approches, ces deux modèles d'action, ces deux conceptualisations de la prévention. L'une qui valorise le contrôle et la maîtrise en choisissant notamment des indicateurs d'effectivité qui sont décontextualisés. C'est le cas la plupart du temps des enquêtes épidémiologiques qui visent à montrer, on prend un critère, par exemple celui de la mortalité, et puis, toutes choses égales par ailleurs, on compare plusieurs situations. Et sur ce critère qui est décontextualisé, l'idée est d'évaluer les interventions en prenant des critères robustes, quitte à simplifier à outrance, à l'extrême, la complexité de la situation ou des valeurs qui sont en jeu. Et face à ce modèle qu'on pourrait dire réductionniste, on a un modèle plus contextuel, qui tient compte de la complexité de ce que c'est que les situations de santé, la complexité, les multiniveaux des déterminants sociaux de la santé, qui utilise par exemple des approches qualitatives, mais qui du coup perd en généralisabilité, en transposabilité, puisqu'on est dans des cas qui deviennent plus singuliers et plus particuliers. Donc ça, ce sont des tensions qui animent le débat aujourd'hui en santé publique, et je crois qu'il se pose dans tout projet de santé publique, puisque à un moment, il faut faire des choix entre les modes d'évaluation qui peuvent être simplifiants, mais avec une portée générale, et une modélisation de l'action qui laisse place à la complexité. Et enfin, la quatrième tension, elle porte sur les rapports de pouvoir. Et là, de même, on se trouve dans une sorte d'antinomie entre d'un côté la santé publique qui est une entreprise de gouvernement des conduites, hein, un relais des rapports de domination qui existent dans la société, un maintien des hiérarchies sociales et des rapports de domination, hein, la santé publique comme biopolitique, et puis la santé comme, à l'inverse, je dirais, comme un espace qui permet la mobilisation, éventuellement l'émancipation par rapport à des relations de pouvoir préexistantes, puisque au nom de la santé, il peut y avoir des revendications qui dépassent, je dirais, ou qui remettent en cause les hiérarchies sociales établies. Et que la valeur d'une politique de santé publique ou d'un programme ou d'un projet de santé publique, elle est double quelque part. Elle passe, elle présente les deux dimensions à la fois une dimension de renforcement des rapports de domination et en même temps un espace où des opportunités d'émancipation peuvent apparaître. Voilà. Alors, ce schéma qui est... l'idée, c'est quand même qu'on a une circulation entre ces pôles. C'est-à-dire qu'on a, entre les finalités du concept de santé, les finalités de la santé publique, la légitimité de l'action de santé publique et l'articulation qu'elle pose entre santé et liberté, les modèles entre complexité et contrôle, et les rapports de pouvoir, quelque part, on a une circulation de ces enjeux qui se répercutent les uns dans les autres. Alors, pour conclure, et pour essayer de peut-être susciter un petit peu la discussion et faire le lien dans mon exposé entre les différentes parties, il me semble que ce parcours autour de la médecine de surveillance qu'on a vu dans ce séminaire, il a permis d'aborder un peu ces différentes questions. Quelle conception de la santé est sous-jacente à cette médecine de surveillance dont on a décrit un peu le développement sur différents niveaux. Il me semble que la réponse ici qu'on a, c'est que la médecine de surveillance, c'est une médecine qui déploie une pensée du risque et qui renforce le concept de santé négative au sens où elle donne au risque une importance et une ubiquité peut-être sans comparaison avec les formes antérieures de pratiques médicales. Deuxièmement, quelles articulations entre santé et liberté ? Là, j'aurais du mal à décider, mais justement, je pense qu'on est dans on rejoue cette tension. La surveillance, la médecine de surveillance, est-ce qu'elle permet davantage aux personnes d'exercer leur liberté, ou bien est-ce qu'elle, au contraire, elle constitue une intrusion éventuellement insidieuse dans la sphère privée et qu'elle elle a une tendance à orienter davantage les comportements, à les manipuler. Là, je crois que voilà, il y a des discussions à avoir là-dessus. Quel modèle de connaissance ? Alors, moi, je me suis quand même demandé si, notamment avec la séance sur les algorithmes et les outils de prédiction qui découlent des gigantesques bases de données qui permettent de conduire de nouvelles sortes d'études en santé, est-ce qu'on est dans un modèle de connaissance qui laisse place à la complexité des phénomènes, à leur multidimensionnalité, ou bien est-ce qu'elle a une dimension réductionniste ou réductrice ? Et je crois que là, on est aussi sur un débat qui est important. Quel modèle de connaissance est sous-jacent à cette médecine de surveillance ? Et enfin, quels effets de pouvoir ? On a vu que la médecine de surveillance, elle pouvait avoir une valeur de contrôle et de normalisation, hein, en donnant à la norme une force et une emprise. Quels contre-pouvoirs, échappatoires et réappropriations sont possibles ? Est-ce qu'on est dans un domaine qui permet, par exemple, aux patients, aux personnes concernées, de réinterpréter leur expérience d'une façon qui s'oppose à le renforcement du contrôle et de la normalisation ? Voilà les questions sur lesquelles je souhaitais terminer. Je m'arrête ici. Merci beaucoup de votre attention. Et on peut discuter maintenant de tout ça. Merci.